Deux grains de grenade, conte du Maghreb, traduit de l'arabe et établi par J. Selmili. Quatrième cassette, première face, page 155. Le coq du Mouloud. Le Mouloud, M-O-U-L-O-U-D, c'est la fête de la naissance du prophète Mahomet, ou comme on dit en arabe, Sinna Mohammed. C'est un petit peu l'équivalent, si tu veux, de ce qu'est pour les chrétiens la fête de Noël, la naissance de Jésus. On était au soir de la fête de la naissance de Sidna Mohammed. Dans toutes les familles, les femmes s'affairaient autour des canouns. Un canoun, C-A-N-O-U-N, c'est un mot que nous avons déjà rencontré, c'est un réchaud ou un petit fourneau de terre cuite. De partout s'élevaient des senteurs de plats aromatiques, de gâteaux, de miel et surtout, parfum suprême, de bouillon de poulet. Car s'il est de tradition d'égorger un mouton en souvenir du sacrifice du bélier d'Abraham pour la fête de l'Aïd el-Kébir, A-I-T-R-E-M-A-D, plus loin E-L, plus loin K-E-B-I-R, dans tout le monde musulman, on sacrifie un poulet pour la fête de la naissance du prophète. Les jeunes femmes musulmanes ont en effet coutume en ce pays, lors de leur première relevaille après la naissance d'un enfant, de manger du poulet en souvenir de Fatima, la fille du prophète, qui aurait ainsi retrouvé des forces à la suite des naissances de ses fils Hassan et Hossein. Les hommes, quelques jours auparavant, font donc l'assaut des souks, S-O-U-K-S, ça veut dire les marchés, alentour, pour y découvrir les plus belles espèces de coqs, dont les chants matinaux dans les casbahs, C-A-S-B-A-H-S, les villes, sont un prélude sonore de cette grande fête. Encore aujourd'hui, dans les pays musulmans, il y a de nombreux coqs, même dans de grandes villes. Rabat, la capitale du Maroc, où j'ai été il y a quelque temps, on entend des coqs dans tous les coins de la ville, et c'est une ville de 900 000 habitants, c'est-à-dire aussi grande que Lyon ou Marseille. Or, dans cette maison-là, où diverses familles cohabitaient le long des galeries à arcades d'un patio commun, il y avait un ménage de pauvres ouvriers qui voyaient avec angoisse que leur manque de moyens ne leur permettait pas le moindre achat. N'avoir rien à manger que du pain un jour de Mouloud et entendre les coqs de tous les voisins dans la cour, quel supplice! L'homme était résigné. Mais sa femme, de renommée si astucieuse qu'on l'appelait Aïcha El Quadra, Q-A-D-R-A, c'est-à-dire Aïcha la bien capable, la dégourdie, la débrouillarde, ne cessait de bougonner. Seul Mouloud et pas le plus maigre poulet à mettre à la casserole. Que veux-tu, disait le mari, je n'ai pas trouvé de travail. Regarde le coq du voisin, reprenait Aïcha. Est-il beau? Est-il gras? Pour eux deux et leurs deux enfants seulement. C'est la volonté du Seigneur, disait le mari. Mais ce coq, reprenait Aïcha, pourrait facilement nourrir 6 personnes. Tu vas voir si je ne suis pas capable d'organiser une belle fête du Mouloud. Laisse-moi faire. Alors Aïcha expliqua à son mari le scénario qu'elle venait d'imaginer. « Moi, je vais m'asseoir, dit-elle, sur le seuil de la porte et je regarderai les préparatifs des voisines. Toi, tu arriveras avec un gros bâton. Je rentrerai. Tu taperas à bras raccourcis sur le matelas pour qu'on entende bien les coups. Je vais crier « pleurer, tu hurleras. Ce soir, la raclée sera meilleure encore. Et tu partiras. Quand tu reviendras une heure plus tard, tu resteras sur le pas de la porte. Les choses se passèrent ainsi. Or, derrière les rideaux des fenêtres du patio, toutes les allées et venues sont enregistrées en silence par les voisines, les commères. On a vu l'homme venir, on a entendu les coups, on l'a vu repartir et promettre de mieux servir le soir. On a surtout entendu les cris et les pleurs de la femme. Alors la voisine au coq somptueux sur lequel s'étaient longuement appesantis les yeux d'Aïcha s'est présentée. Elle a recueilli l'épouse en pleurs et l'a invitée chez elle au dîner du Mouloud. La marmite mijotait. L'odeur du bouillon était délectable. On a attendu charitablement le retour du pseudo-mari irascible. Le voisin, désireux de fêter ce joyeux anniversaire religieux par une action de paix et de réconciliation, est allé gentiment inviter le mari quand il l'a vu de retour, en attente sur le seuil de sa porte. « Viens, ta femme est chez nous, on va fêter ensemble le Mouloud. » L'homme, apparemment renfrogné, s'est assis dans le cercle familial où déjà sa femme avait pris place. Le maître de maison a découpé le coq, le héros du festin. Puis, comme il faut toujours honorer ses invités, la maîtresse de maison a placé devant sa voisine le plat où trônaient les membres du coq magnifique en lui disant « Fais le partage, Aïcha, à toi de distribuer. » Alors, Aïcha, la bien capable, à considérer avec componction ce plat royal. Puis, lentement, solennellement, elle a procédé à l'affectation de chaque part. Les deux ailerons, c'est pour les deux enfants. Le cou, c'est pour celui qui l'a porté depuis le souk. La cuisse, c'est pour l'homme malheureux. Le croupion, c'est pour la beauté incomparable, ma chère. Et la blanche poitrine, c'est pour moi la poitrine de tous les soucis. Tu viens d'entendre 18 contes du Maghreb, c'est-à-dire de l'ouest de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Tu as remarqué que dans ces contes, il y a de nombreuses allusions à la religion musulmane. Je crois qu'il est bon que maintenant tu t'instruises un petit peu pour mieux connaître cette religion et son fondateur, qu'on appelle Mohammed, M-O-H-A-2-M-E-D, ou Mahomet, M-A-H-O-M-E-T. Servi au 7e siècle par une poignée de disciples, l'islam, I-S-L-A-M, c'est-à-dire la religion musulmane, a connu un développement extraordinaire, surtout en Afrique et en Asie. Il compte aujourd'hui parmi les grandes religions aux côtés du christianisme, du judaïsme et du bouddhisme. Et en France même, il y a à peu près actuellement 2 millions de musulmans. À la naissance de Mohammed, vers 570 après Jésus-Christ, l'Arabie est un immense pays habité par une multitude de tribus parlant des dialectes différents et déchiré par des querelles constantes. À l'ouest, la mer Rouge. À l'est, l'océan Indien, au nord, le golfe persique. Une succession de montagnes le long de la mer Rouge, de riches oasis semées dans le désert, où poussent des palmeraies superbes. Partout ailleurs, les steppes où paissent les chameaux et les terribles déserts, tels ceux de Nefoud, N-E-F-O-U-D, au nord, et de Roub al-Khali, R-O-U-B, trait d'union A-L, trait d'union K-H-A-L-I, au sud. Deux grands groupes de tribus se partagent le pays. Les Yéménites, Y-E-M-E-N-I-T-E-S, au sud, les Nizarites, N-I-Z-A-R-I-T-E-S, au nord. Qu'ils soient nomades ou habitent des tentes en poils de chameau, ou sédentaires et demeurent à l'intérieur de maisons, les Arabes vivent dans une société organisée en familles, en clans, en tribus, en groupes de tribus. Pas de vie individuelle possible, et le sujet qui déserte sa tribu d'origine devient un hors-la-loi, qui cherche pour survivre à s'allier à d'autres errants. Le clan est une réunion de familles descendant d'un ancêtre commun qui lui a donné son nom. La tribu est le groupement des clans apparentés. Elle se rassemble dans un cercle de tentes autour de la demeure du chef, le Chaïk, C-H-A-I-K-H, qu'on appelle aussi le Cheikh, C-H-E-I-K-H. Choisi parmi les chefs de famille pour ses qualités d'expérience et de courage, le Chaïk arbitre les différends au sein de la tribu. La vendetta, la vengeance, et le talion, les représailles, font régner une justice de fer. Il n'est pas d'unité nationale possible dans cette Arabie du 7e siècle, constamment désorganisée par les luttes entre tribus, poursuivies de générations en générations, que viennent aggraver les razzias, les raids. La pratique des razzias se fonde, R-A-2-Z-I-A-S, se fonde sur une réalité géographique et économique. En effet, les Arabes tirent leurs principales ressources de l'élevage, moutons et chameaux, et du commerce. Ils lancent de longues caravanes à travers le pays, chargées d'épices, de sel et d'autres produits destinés aux foires. Cette lente colonne de richesses qui progresse sans protection suscite la convoitise. La razzia consiste donc à attaquer les caravanes dans le but de s'approprier les biens qu'elles véhiculent. Les Arabes, alors, pensent que le monde est organisé par des forces surnaturelles animant toutes choses. Les djinns, esprits occultes, habitent les arbres, les sources, les pierres. Les pierres de la Kaaba, K-A-B-A, avant d'appartenir à la mosquée de la Mecque, leur servirent de refuge. Les djinns s'incarnent dans des animaux, chameaux, chiens, scorpions. L'oiseau est un djinn, et même un djinn devin. Tantôt bon, tantôt mauvais, les djinns possèdent parfois les hommes, propagent les épidémies et inspirent le poète, manière de barde qui célèbre les exploits de la tribu et invoque les dieux. Le djinn femelle est redoutable. C'est la goule, G-H-O-U-L-E, qui rend les hommes fous. Elle rôde la nuit, elle envoûte, mais l'aurore la chasse. Étoile du matin vers toi et loin de moi, je ne suis pas du matin et il n'est point de moi. La ville de la Mecque, M-E-C-Q-U-E, au 7e siècle, est le centre cultuel et commercial de l'Arabie. La grande famille des Quraïchites, Q-U-R-A-I-T-E-S, y détient le monopole du commerce. Elle envoie ses caravanes vers la Syrie, l'Irak, le Yémen, les plaçant sous la protection du dieu Hobal, H-O-B-A-L, de la Kaaba et de ses filles. Les pèlerins, venus des provinces éloignées pour la foire de la Mecque, n'adorent pas seulement les divinités locales à la Kaaba, mais aussi les emblèmes de leur propre divinité dont ils ont momentanément déserté les sanctuaires. Toutes ces ferveurs éparpillées se trouvent cependant comme unifiées par le culte rendu collectivement à Al-Ilaha, A-L, trait d'union I-L-A-H, qui s'impose alors comme la quintessence de toutes les divinités révérées. Ceci préfigure déjà le monothéisme, M-O-N-O-T-H-E, accent aigu, I-S-M-E, le culte d'un seul Dieu, et prépare les esprits à la reconnaissance d'Allah, A-2-L-A-H. C'est alors que Mohammed vint. À côté des djinns, prolifère une multitude de divinités, différentes selon les tribus. Les sanctuaires sont édifiés là où abonde l'eau, à proximité des lieux où se concentrent les hommes. L'acte essentiel du culte est le pèlerinage. Des périodes sacrées, haram, H-A-R-A-M, lui sont réservées, qui coïncident à dessein avec les foires. Ainsi, dans le Hedjaz, H-E-D-J-A-Z, se déroulent les grands pèlerinages de la Umra de la Kaaba à la Mecque pendant le Rajab, mois sacré du printemps, et du Hajj de Arafat pendant les mois sacrés d'automne. Ces mois sacrés constituent une trêve au cours de laquelle les razzias sont suspendues. Les foires peuvent ainsi accueillir les différents produits apportés par les caravanes qui sont protégés provisoirement des attaques des pillards. Le commerce est sanctifié par le rite. Mohammed, ou Mahomet, naît vers 570 dans le Hedjaz. H-E-D-J-A-Z. C'est la partie occidentale de l'Arabie, qui est montagneuse, le long des côtes de la mer Rouge. Il appartient à une famille de la tribu Kouraïchite. Son père, Abdallah, A-B-D-A-2-L-A, accent circonflexe H, le plus beau des hommes de la tribu, épouse Amina, A-M-I-N-A, fille de Wahab. Selon la légende, la naissance du futur prophète est annoncée à ses parents par un ange. Lorsqu'il vit le jour, une lumière éclaira le monde et les temples s'effondrèrent, les palmeraies s'embrasèrent. Tôt orphelin, Mohammed reçut la distinction suprême, l'anneau du prophète gravé sur la nuque, et garda les moutons comme tout homme destiné à la prophétie. Comme il est écrit dans le Coran, Moïse a été pâtre de moutons ainsi que David, et moi, Mohammed, j'ai été envoyé alors que je gardais ceux de ma famille. À 20 ans, il devient l'homme de confiance de Khadija, K-H-A-D-I, accent circonflexe, D-J-A, une riche veuve qui le charge de la conduite de ses caravaniers. Bientôt, il épouse Khadija, dont il a de nombreux enfants. Il a tout le loisir de méditer et de s'entretenir avec des interlocuteurs de diverses sectes, parmi lesquels la Hanafia, H-A-N-A-F-I-Y-A, monothéiste, c'est-à-dire qui adore un seul Dieu, et des judéo-chrétiens. Il en vient ainsi à concevoir l'idée d'Allah, Dieu unique et tout-puissant. Mohammed attend un signe. Il guette une manifestation de Dieu, jusqu'au jour où celui-ci se révèle enfin par l'intermédiaire de l'ange Gabriel pendant sa retraite sur le mont Hira, H-I-R-A. Désormais, chaque année, l'ange Gabriel lui livrera une révélation. L'ensemble des révélations que reçut sa vie durant Mohammed constitue le Coran, C-O-R-A-N. Il est en quelque sorte l'intermédiaire, ou plutôt l'instrument de la volonté divine. Il doit répéter la parole de Dieu avec exactitude. Autour de Mohammed s'est formé un petit groupe d'adeptes. Ils l'écoutent prêcher cette religion révélée qui propose également une organisation du monde arabe. Les Quraïchites, cependant, résistent au zèle religieux de Mohammed qui se lamente. Contraint de quitter la Mecque, Mohammed et ses disciples se réfugient à Médine, M accent aigu D-I-N-E, qui deviendra le berceau de la nouvelle religion. C'est ce que l'on appelle l'Égir, H-E accent aigu G-I-R-E, en 622, et les musulmans comptent les années à partir de l'Égir, comme les chrétiens, les occidentaux d'une manière générale, comptent les années à partir de la date de la naissance du Christ. Mohammed construit à Médine la première mosquée, modèle de toutes les autres à venir. Mohammed est désormais un chef spirituel et politique. Pour survivre, il organise des razzias, R-A-2-Z-I-A-S, qui prennent un caractère sacré. L'ennemi désigné, c'est l'incroyant. Pour ruiner le commerce des Quraïchites, Mohammed et les siens attaquent leur caravane. La guerre est déclarée entre les deux communautés. Elle ne prendra fin que lorsque le prophète entrera en vainqueur à la Mecque. Les Quraïchites se soumettent et reconnaissent l'islam monothéiste. Dès lors, c'est l'expansion vers le nord. Par la force ou par la ruse, la plupart des tribus arabes sont gagnées à la nouvelle religion. Mohammed, le prophète, a réalisé l'unité de l'Arabie et il meurt le 8 juin 1632. Le Coran, C-O-R-A-N, le livre saint des musulmans, comporte 114 sourates, S-O-U-R-A-T-E-S, c'est-à-dire chapitres, et 6219 ayat, A-Y-A accent circonflexe T, c'est-à-dire versets. Le classement des sourates est effectué en fonction de leur longueur et non en fonction de l'ordre chronologique de leur révélation. Mohammed, selon la tradition, a dicté à son secrétaire Zaïb, Z-A-I-B, les propos intégraux que l'ange Gabriel lui tenait en dialecte quraïchite. Le texte définitif du livre sacré est établi dès le 7e siècle. Il fixe les cinq obligations essentielles du musulman. La prière, le pèlerinage à la Mecque, dans la mesure de ses moyens, le jeûne du Ramadan, l'aumône légale et, seulement si c'est nécessaire, la guerre sainte, le djihad, D-J-I-H-A-D. Les cinq prières fondamentales sont la prière de l'aube, la prière de midi, la prière de l'après-midi, la prière du coucher du soleil et la prière du soir. En outre, le musulman doit prier en état de pureté, ce qui l'oblige à des ablutions régulières, c'est-à-dire à se laver 5 fois par jour, et s'il est dans le désert et s'il n'y a pas d'eau, il peut remplacer ses ablutions en se frottant avec du sable. La mosquée n'est pas la maison de Dieu, comme l'est pour les chrétiens l'église, mais le lieu qui rassemble les fidèles. Une prière collective y est prononcée tous les vendredis, qui est l'équivalent pour les musulmans de ce qu'est le dimanche pour les chrétiens, sous la conduite de l'imam, I-M-A-N. L'appel à la prière est effectué par le muezzin, M-U-E-2-Z-I-N, du haut du minaret, une espèce de clocher. Celui qui prie doit se prosterner et se tourner vers la Mecque. Cette cassette n'est pas encore finie et j'ai fini tout le livre des deux grains de grenade, y compris la préface que je viens de te lire qui a trait à la religion musulmane. Je vais donc la compléter sur l'autre face par un conte des mille et une nuits. Les contes des mille et une nuits sont des contes orientaux qui se déroulent dans un climat lui aussi musulman. Retourne donc cette cassette. Après l'avoir, bien sûr, laissé se dérouler jusqu'au bout.